pour ce voyage, et je sais que vous avez prié aussi pour d'autres voyages missionnaires, le camp de Joël et de Suzanne, et puis pour également le Sénégal, non, le Togo. Non, je demande à Salomé, elle est en train de dormir, ils ont fait un week-end de jeûne. Donc surveillez ceux qui reviennent du week-end de jeûne, parce que si jamais ils dorment, vous avez le droit de les réveiller. Voilà. Merci Seigneur pour sa grâce, pour qui il est. Amen. On le remercie parce qu'il est fidèle. Et c'est un privilège de pouvoir annoncer l'évangile en Suisse, à Bussigny. Et puis c'est un privilège aussi de pouvoir l'annoncer dans toutes les nations. Comme il a été dit ce matin, et puis comme il a été également dit dimanche dernier, nous sommes dans un temps d'intercession. Et nous croyons que l'appel qu'il y a sur l'Église, non seulement l'Église locale ici, mais l'Église dans un sens plus large, c'est de toucher les nations. Amen. Que ce soit la Roumanie, que ce soit la Suisse, que ce soit toutes les nations. Et je crois que vraiment c'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors je voudrais encourager Christian par rapport à la prédication de la semaine dernière, cet appel à être ensemble. On a commencé jeudi soir à intercéder. C'est une bonne nouvelle. Hein, et j'avais préparé 3 chaises. Et en fait, j'étais vraiment encouragé, on était le double. Non, c'est une blague, mais c'est vrai. J'avais, dans ma foi extraordinaire, j'avais préparé un certain nombre de chaises. Et puis en réalité, on a été le double. Et merci Seigneur parce qu'il nous fait la grâce d'être parmi nous et de nous conduire. Ce matin, je voudrais parler, c'est un texte que j'ai eu sur le cœur pendant que justement j'étais en prière. Et c'est un texte de Ésaïe, chapitre 56, où il est dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Amen. Quelques 8 siècles auparavant, ce texte a été écrit. Et voilà que Christ Jésus, lorsqu'il est sur la terre, il va arriver. Et à un moment donné, donc c'est un texte qui s'est, je pourrais dire, imposé à mon cœur pour ce matin, très fortement en tout cas. 8 siècles après, Christ Jésus va redire cette réalité annoncée par les prophètes. Et il va dire dans un certain contexte, et on va lire le texte, je vous invite à prendre le texte, c'est dans, vous l'avez ici, le texte principal. Il s'agit de Matthieu 21, 12 et 13, et je vais me permettre de lire un petit peu plus dans le contexte. Et vous avez aussi également le parallèle avec Marc 11, Luc 19 et Jean 2. C'est exactement le même passage. Et on trouve, je lis quelques versets avant ce verset 12 pour donner le contexte. C'est Jésus qui arrive dans le temple. Il est dit au verset 1, lorsqu'ils vont s'approcher de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Et vous savez cette histoire, il leur dit, allez préparer, allez me chercher un ânon, etc. Donc il va dire cela et l'ânon va être apporté par les disciples. Au verset 4, il est dit, ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. C'est le verset 4 de Matthieu 21. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et voilà, il y a l'épisode de cette arrivée à Jérusalem dans ces quelques versets. Et on voit qu'il y a une foule qui vont étendre des vêtements sur le chemin, comme ce matin, extraordinaire. Ce matin, on a chanté Hosanna. Et à un moment donné, l'équipe de louanges nous a amené dans ce discernement de dire, mais voici le roi qui vient, le roi vient, le roi est là. Amen. Le Seigneur des Seigneurs est là, extraordinaire. Il est digne d'être loué. Et puis ils vont crier, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire, Hosanna? C'est une interjection qui est utilisée par les Juifs et aussi par les chrétiens. Et la prière, qui est un cri du cœur, c'est Éternel sauve, Éternel libère-nous, Éternel agis, parce que nous en avons besoin. Et voilà que lorsqu'il entra dans Jérusalem, au verset 10, toute la ville fut troublée en disant « Mais qui est cet homme ?» Peut-être certains ce matin se disent « Mais qu'est-ce qui leur arrive à ces chrétiens d'être un peu excentriques ? Qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme? Qui est Jésus? Qui est Dieu? Et puis la foule répondait, mais c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Verset 12, vous l'avez ici, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons de colombes. Verset 13, il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière. Vous souvenez, prophète Ésaïe. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Juste après, on a la réaction au verset 16 ou 15. Quand les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, ils ont vu cela, ils furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. Et va y avoir un conflit. Ici, dans l'action, vous pouvez voir ça sur vos cartes, nous sommes dans la dernière semaine du ministère de Jésus sur la terre. Et voilà que vous avez les différentes villes, voilà que Christ vient, l'entrée triomphale. Il y a trois événements marquants lors de cette dernière semaine avant la crucifixion et ensuite la résurrection. Nous sommes dans une période de Pâques. Les trois événements marquants de cette dernière semaine, eh bien, ça va être l'entrée triomphale, on l'a vu. Jésus qui va faire quelque chose de très étonnant en chassant les vendeurs. Et puis, il y a l'histoire du figuier qu'on ne va pas évoquer, mais le figuier qui va être séché surnaturellement. Et tous ces éléments-là, en réalité, ont un lien entre eux. Voilà que Jésus va annoncer qu'il est le Messie. Et voilà que lorsque Jésus vient, il est dit dans les différents textes, on se rend compte que Jésus, lorsqu'il fait cette entrée triomphale, certains vont crier, vont dire « Mais Hosanna au fils de David !» Et d'autres vont être plus réticents. Et je voudrais me focaliser ce matin sur ce contexte dans lequel Jésus a dit « Ma maison sera et est appelée à être une maison de prière. » Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jésus fait-il cela? Pourquoi d'un seul coup on a l'impression que Jésus a un accès de violence, de colère? Que se passe-t-il? Pour voir cela, il faut simplement, peut-être pour remettre aussi le contexte, l'action se passe dans le temple d'Hérode, donc au 1er siècle. Il faut simplement se souvenir que le temple à Jérusalem, pour le peuple juif, ce n'est pas simplement un lieu où on se rencontre pour avoir une réunion. C'est véritablement un centre de vie spirituelle. C'est l'identité forte juive. Depuis que ce temple avait été souillé par ce Antiochus Épiphane, ce roi Séleucide, au IIe siècle avant Christ, il avait mis dans le temple, dans le lieu très saint, il avait mis un autel à Zeus, le dieu du ciel et de la foudre. Il avait sacrifié un cochon. Il avait souillé le temple. Et là, ça a été catastrophique. Israël, par rapport à son appel, était à deux doigts de perdre non seulement cet appel et cette relation avec son dieu. Et la révolte des Maccabées va permettre de purifier le temple. En 164, il va y avoir à nouveau la dédicace du temple. Le temple est purifié. Le temple a été souillé et voilà qu'ils se sont battus pour que le temple puisse être à nouveau purifié et qu'il serve pour le rôle, pour le but qu'il a été conçu et créé. Ça nous parle ? Nous sommes, on le verra, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quelquefois, on a besoin de s'arrêter et de dire, est-ce qu'il y a dans nos cœurs des choses qui ont besoin d'être purifiées? Alors, le temple ici, vous avez aussi les galeries, voilà l'endroit où Jésus a enseigné souvent, où il a opéré aussi des miracles. Et puis, vous avez ici les différents lieux, le parvis des femmes, le parvis des hommes, dans le temple, il y a le lieu saint, le lieu très saint, pour ceux qui sont habitués à la Bible, vous connaissez ça, je le redis pour ceux qui sont un petit peu moins habitués. Et puis vous avez vu ici, il y a un petit mot soreg, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un mur qui va séparer l'endroit des juifs et des non-juifs. De ceux aussi qui étaient infirmes, de ceux qui n'avaient pas le droit d'entrer dans l'enceinte. Et on retrouve, c'est l'archéologie qui nous explique que ce panneau qui était... J'ai oublié de remettre mes lunettes, c'est terrible. Ce panneau qu'il y avait sur la muraille, où il était marqué, donc c'est une traduction, il était marqué que nul étranger ne pénètre à l'intérieur de la balustrade et de l'enceinte qui sont autour de l'esplanade. Celui qui serait pris serait cause que la mort s'en suivrait. Donc c'est l'ancien, c'est un petit peu bizarre, mais en gros ça veut dire que si pour les non-juifs et ceux qui n'étaient pas admis dans cette enceinte du lieu de la présence de Dieu, eh bien ils seraient mis à mort. Plus particulièrement, l'action effectivement se trouve justement dans cet endroit à l'extérieur. Quand Jésus vient, il est dit qu'il va observer ce qui se passe. Marc, c'est un des passages parallèles où il est dit, regardez ici, je crois que j'ai le texte. Donc, dans Marc, vous avez le même épisode. Et il est marqué, pas sur la slide, mais au verset 11, il est dit, « Une fois qu'il est entré dans Jérusalem, après son entrée triomphale, il va se rendre au temple et y observa attentivement tout ce qui se passait. Ensuite, comme il se faisait tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. » Et ensuite, au verset 15, voilà, il se passe, donc le lendemain. Donc on s'est dit que quand Jésus arrive dans ce temple et dans le parvis des gentils, c'est-à-dire des nations, il va, dans un premier temps, voir et observer tout ce qui s'y passe. Il va, j'imagine, et il est dit attentivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'imagine que lorsque ces vendeurs, qu'est-ce qu'ils vendaient? Ils vendaient les animaux pour le sacrifice, ils avaient besoin d'être conformes à la loi. Et puis les gens qui venaient de loin, les prosélytes, et puis les juifs qui habitaient à l'étranger venaient, ils n'allaient pas apporter tous les animaux avec eux, donc ils venaient acheter les animaux du sacrifice. Il est parlé des changeurs de monnaie, ils avaient une monnaie qui ne correspondait pas à l'offrande qui était attendue dans le temple. Et puis l'offrande dans le temple, il ne fallait pas qu'il y ait d'effigie à César. Voilà. C'est la raison pour laquelle l'objectif était, je dirais, compréhensible. Mais Jésus vient et il va entrer dans le temple, lui qui est Dieu, lui qui est parfaitement homme, et il prend le temps d'observer. Il prend le temps d'écouter. Et peut-être qu'il a entendu, il a écouté des conversations lorsque les gens ont commencé à acheter. Peut-être qu'il a vu, il a perçu que peut-être que ce qui a été vendu, c'était peut-être un peu trop cher. Il a entendu les préoccupations, il a entendu peut-être les critiques, peut-être qu'il a entendu des gens, j'extrapole, mais il a entendu toutes sortes de conversations. Et également, ça pour le coup, je l'imagine très bien, parce que le parvis des gentils était quoi? Il était là pourquoi? Pour que tous ces hommes, toutes ces femmes puissent prier Dieu, puissent rencontrer Dieu. Le temple, c'est le temple, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu de l'intercession, c'est le lieu de l'adoration. C'est le lieu où je vais pour rencontrer Dieu. Gloire à Dieu, aujourd'hui on peut louer Dieu dans n'importe quel endroit. Parce que j'étais en train de faire un tour en forêt, puis d'un seul coup, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. On a un Dieu qui est, c'est des gros mots, hein, omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est partout. À ton travail, lorsque tu pars en vacances, lorsque tu es dans les vignes, Dieu est partout. Mais à ce moment-là, pour l'adorer, il y avait un endroit spécial. Vous imaginez, certains ont dépensé de l'argent, certains ont fait des voyages. Alors même si on est à l'époque de la Pax Romana et que c'était plus sécur de voyager, il fallait quand même voyager. Ils ne pouvaient pas faire ça sur Internet, il n'y avait pas de Zoom. Ils devaient faire ce voyage. Ils devaient payer le prix, c'était risqué. Et voilà qu'ils arrivent enfin dans le lieu de l'adoration. Ils se sont fait une raison, ils ont dit, bon, on accepte, on n'a pas le droit d'entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Mais au moins, on est sur cette esplanade. On peut être là et on peut prier. Et voilà que dans ce lieu de prière, il y a toutes sortes de commerces, toutes sortes de discussions. Vous imaginez toutes les nations qui viennent, il devait y avoir du monde, il devait y avoir du bruit. J'imagine quelqu'un qui Jésus a dû observer cela. Peut-être quelqu'un qui a demandé, qui priait de tout son cœur de dire mais Dieu, le Dieu d'Israël, je veux te connaître plus, je veux te rencontrer. Toutes sortes de prières. Et voilà qu'à côté, il y avait le brouhaha, il y avait toutes sortes de choses, d'activités. Et Jésus, il observe tout cela. Il observe la soif de ces nations. Il observe ce commerce où certains peut-être abusaient. Il va, il retourne chez lui, à Béthanie, en tout cas avec ses amis, ses proches. Et il va revenir, et que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? La Bible nous dit, quand vous lisez, on lit les quatre passages, qu'est-ce qu'il fait ? D'un seul coup, il commence à prendre les tables et les renverse. Il y a la monnaie qui part partout. Il commence à prendre les vendeurs, à les chasser. Il commence à... Jean nous dit qu'il s'est fait un fouet avec. On a dans Luc ici, il dit à peu près la même chose que les autres. Mais dans Jean, il est dit deux choses intéressantes. D'abord que Jésus s'est fait un fouet avec des cordes et il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs, la monnaie. Ça a dû être absolument étonnant. Vous imaginez ? Vous imaginez ? C'est impressionnant, on ne se rend pas compte. Alors certains commentateurs, je trouve assez amusant. Certains commentateurs disent, mais ce n'était pas des cordes, il a pris juste un peu une plante, ce n'était pas méchant. Non, vraiment, ce n'était pas méchant. Il a été gentil avec eux. Il leur a juste demandé est-ce que c'est possible de partir, s'il vous plaît ? Je voudrais pas vous déranger, mais certains commentateurs sont dans cet axe. Mais la Bible et elle me dit qu'à un moment donné, Jésus, est-ce qu'il a eu une montée ? Est-ce que c'est un sanguin ? On l'a dit tout à l'heure, il a pris le temps de la réflexion. Il a observé. Puis il y a d'autres éléments. Quand on lit la Bible, c'est important de ne pas avoir une interprétation juste sur un texte. Mais qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit que quand Jésus arrive et fait son entrée triomphale, il y en a qui acclament Jésus. Il lui dit, mais Hosanna, au fils de David, on a besoin du salut. Et il commence vraiment, ils ont soif, il l'honore. Et il est dit que ce qui est accompli, c'est quoi ? C'est voici ton roi, plein de douceur. On l'a lu tout à l'heure ? On a ici Christ. Alors là, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Christ Jésus est parfaitement homme. Il est parfaitement Dieu. Il est plein de douceur. La douceur, des fois pour nous, en tant qu'humains, on aurait tendance à croire que c'est synonyme de la faiblesse. Mais quand on connaît Christ, quand on connaît Dieu, et qu'on sait qu'il est au-dessus de tous les noms, un mot de sa part et la situation peut changer, on voit que personne n'a pu lui imposer quoi que ce soit. Il est tout-puissant, il a vraiment la puissance. Lorsqu'il dira à Pierre ou à ses disciples, mais ne sais-tu pas que je pourrais faire appel à vraiment des myriades d'anges qui pourraient venir me défendre ? Dieu n'est pas un Dieu faible. Christ n'est pas quelqu'un qui est faible, mais il est doux, c'est de la bienveillance, c'est de la bonté, empreinte de la force. Souvent, quand je lis ce texte, je pense, vous savez, à ces rugbymen qui font trois fois ma taille, en muscles évidemment, ou des boxeurs, vous savez, les boxeurs poids lourds. Vous avez déjà vu ça ? Imaginez ce boxeur où, une fois, on s'est retrouvés, on était à Carcassonne, et puis à un moment donné, on s'est retrouvés avec quelques joueurs de l'équipe du Stade Toulousain. Et ils se sont assis, on était au château de Carcassonne, et ils s'assoient, il y avait une conférence historique, et ils étaient avec leur famille, et ils s'assoient devant nous, et honnêtement, ils faisaient au moins deux fois notre taille. Et je me dis, mais faut surtout pas être fâché avec eux. Et imaginez ces joueurs de rugby ou ces boxeurs, lorsqu'ils prennent leur enfant qui vient de naître. Évidemment qu'ils sont forts, ils ont la puissance, mais ils sont capables d'exprimer cette douceur. Dieu est le Dieu Tout-Puissant, il exprime cette douceur. Il prend le temps d'observer. Et puis il est dit aussi que, dans Jean, il est dit, mais c'est le temps de Pessah, ça va être le temps de la Pâque. Donc ici, on n'a pas affaire à quelqu'un de violent, compulsif. Et ce qu'il fait, il le fait vraiment, hein. Et dans Jean, il est dit, on l'a ici, regardez, au verset 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. D'un seul coup, ils vont comprendre, les disciples, après coup, ce qui s'est véritablement passé. Et ça nous parle de la motivation de notre Dieu. La motivation profonde qui va faire que, dans la version de Semeur, vous l'avez, les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. L'amour que j'ai pour la maison, pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. La maison de Dieu, ce n'est pas juste les pierres du temple, mais c'est son peuple, c'est l'Église. Et le zèle de la maison de Christ est tellement fort, il prend le temps d'observer, qu'il est capable de faire des actions qui, quelquefois, sont susceptibles de nous choquer. Parce que les religieux ont véritablement été choqués. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi Jésus-Christ fait-il ça, à votre avis ? Quelle est la raison pour laquelle Jésus va avoir ce comportement, cette action ? Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai rappelé, c'est la raison pour laquelle j'ai rappelé le sens du temple de l'Ancien Testament et ses différents parvis. Le parvis des gentils, c'était véritablement lié à l'appel que Israël avait. Israël avait cet appel, non seulement d'être des adorateurs, que Dieu l'Éternel, de servir Yahweh, qu'il soit au centre, mais qu'il soit également un peuple différent pour témoigner de qui est l'Éternel aux nations. Et lorsqu'il y a ce temple qui est ouvert, alors il y avait deux solutions, et c'est ce que Jésus a perçu, c'est de dire, mon peuple, ceux qui ont la loi, ceux qui savent, ceux qui m'adorent, avait ce mandat de faciliter la découverte de l'amour de Dieu, de la découverte du véritable Dieu. L'accès, de donner, de permettre, de faciliter l'accès à l'Éternel pour toutes les nations. C'est un petit peu comme tout à l'heure, on va avoir un temps de prière, d'intercession, puis on est ensemble déjà, et Dieu est là. C'est comme si à un moment donné, alors qu'on prie Dieu, on le loue, on essaie d'entendre ce que Dieu nous dit. D'un seul coup, quelqu'un va commencer à vendre. Il veut vendre sa maison, il veut vendre sa voiture, il veut vendre ou sa guitare, ou je ne sais, commence à faire du bruit. Quelle réaction vous auriez alors que vous êtes en train de prier ? Inévitablement, ça détourne l'attention du véritable but. Et l'attitude de Jésus est à la proportion de la gravité, de ce manque de conscience que le peuple de Dieu est là pour adorer et pour être des témoins pour toutes les nations. Et voilà que Jésus va enlever tout ce qui peut déranger, tout ce qui peut empêcher de découvrir qui est le véritable Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il va agir avec ce zèle, avec cette motivation. Et d'ailleurs, on va voir que Jésus va continuer d'aimer. Lorsque dans Luc, c'est intéressant si vous lisez le contexte de Luc dans ce passage, juste avant, vous savez ce qui s'est passé, avant cet épisode, vous savez ce que Jésus fait. Vous vous souvenez, lorsqu'il arrive à Jérusalem, et qu'il va regarder Jérusalem. Et il va dire, et il va pleurer sur Jérusalem. Et il va dire, mais quel dommage, vraiment, voilà que l'Éternel te visite. Voilà que c'est un temps de rencontre, que Dieu s'est fait homme en travers de Christ, qui s'est approché, non seulement qui s'est approché de l'humanité, mais qui s'est approché de Jérusalem physiquement. Il était là, il est présent, comme aujourd'hui, il est présent par son Saint-Esprit. Dieu veut nous rencontrer, Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous parler. Et c'est des bons moments, ces temps d'intercession, on a vécu un temps, j'ai vraiment été encouragé, je suis réjoui de ces temps. Alors, c'est des temps starter, hein. C'est des temps où on vit des choses avec Dieu et c'est le bon moment. C'est le moment où Dieu vient et que Christ vient et qu'il observe son Église et qu'il m'observe. Parce que nous devons être conscients des temps dans lesquels nous sommes. Et les temps dans lesquels nous sommes, pour le temps de Jésus, une semaine après, quand les religieux lui ont dit « Mais de quel droit tu fais ça? Quel signe tu vas nous montrer? Pourquoi tu... Mais de quel droit tu oses interrompre le culte ?» Vous savez, il a sorti les vendeurs, les acheteurs, le bétail, comment ils font après pour adorer? Vous imaginez? Comment ils font? Comme pendant la période du Covid. Ah mince, on ne peut plus se réunir. Plus de réunions. Plus tout le support qui est extraordinaire. Hein. C'est bien de se réunir, c'est bien d'avoir tous les supports et tout ce qu'on a sur Internet. Mais à un moment donné, Jésus renverse ce sur quoi le peuple de Dieu se reposait. Si vous relisez Ésaïe 56, mais vous pouvez aussi relire Jérémie 7, on peut lire Zacharie 14 et Malachie chapitre 3, Ézéchiel chapitre 40 à 48, mais particulièrement Zacharie va dire, et également Jérémie. Jérémie, particulièrement au chapitre 7, il va dire, mais vous venez au temple, et pour vous, le temple, c'est un gage de bénédiction. Mais à côté, vous commettez des meurtres, vous êtes dans le mensonge, dans l'adultère, mais vous venez au temple, et pour vous, c'est une garantie de bénédiction. Et Jérémie va avertir le peuple en disant, mais ce n'est pas l'aspect extérieur, ce n'est pas la liturgie, ce n'est pas toute notre liturgie, même évangélique, qui fait une différence. Il leur dira, mais revenez à Dieu, revenez à Dieu. Et ils ont prophétisé que le temple serait purifié et qu'il n'y aura plus de voleurs dans le temple. Qu'est-ce qui nous vole de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui me vole de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer véritablement dans l'appel de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'être un témoin? Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Quels sont les obstacles ce matin? On a prié avec les musiciens. Et quelqu'un a prié dans ce sens, de dire, mais que tous les obstacles soient renversés. Que les murs qui nous empêchent de glace ou de verre, c'est Laurent qui parlait, puissent sauter. Et moi j'entends cette prière et quelqu'un d'autre aussi a prié dans ce sens. Et vraiment dans mon cœur, et on est vraiment ensemble, hein, comme ça a été aussi rappelé la semaine dernière, on est vraiment ensemble. On est tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Personne, et moi le premier, ne peut dire non, tout va bien, c'est superbe, il n'y a rien à renverser. C'est faux. Mais on a besoin, quand on a ce message en tête, on a besoin de se souvenir et de le mettre dans le contexte. Dans le contexte d'un Dieu qui est zélé pour notre bien, zélé pour notre salut, zélé pour que rien ni personne ne nous empêche non seulement d'être dans cette relation avec lui, mais ne nous empêche d'être des témoins. On a entendu, j'ai aimé les partages. C'est vrai qu'on n'a pas pu vraiment tout dire, mais c'est vrai qu'il y a eu des temps. Moi, jamais, c'est pas vrai, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas autant témoigné, autant prêché l'Évangile en si peu de temps. Et le dernier soir, quand on était sur la place du village à Telyuk, chez Rachel et Alex, enfin, la ville dans laquelle ils habitent, il y avait deux, trois églises qui étaient ensemble. Et on a eu une réunion d'évangélisation avec des chants, avec tout ce qu'il fallait, sur la place principale du village. Et c'était extraordinaire. Et donc, juste avant, donc je devais prêcher, et j'ai dit, Seigneur, au secours, quoi. Fais-moi grâce, quoi. Fais-moi grâce, non seulement pas parce que je veux être bon, mais qu'aussi le message puisse toucher les cœurs, surtout. Parce que peut-être que, je ne sais pas, pour certains, peut-être que ça sera la dernière fois, je n'en sais rien. Et ce qui m'a beaucoup réjoui, j'ai eu beaucoup de joie à être renouvelé dans cette annonce de l'Évangile, être renouvelé dans l'annonce, d'être des témoins par son Saint-Esprit. À un moment donné, juste à la fin, il y a un homme qui arrive, il me serre la main, je le voyais touché par la réunion qu'il y avait eu, le témoignage qu'il y avait eu, il y avait eu des témoignages, des chants. Et touché, je lui dis comme ça dans l'élan, je lui dis, mais est-ce que si vous partez de cette terre, est-ce que vous êtes sûr de là où vous allez? Et là, j'ai vu qu'il a eu un temps de recul, mais il était touché. Alex était à côté, il a pu parler, il parlait roumain. Et j'ai vu cet homme profondément touché par l'Évangile. Et j'ai juste appris après que c'était le syndic, en fait, c'était le maire. Et quand on est parti... Il y a Diana qui était avec nous, la femme de Corneliu, qui a été voir un petit vendeur de melons qui se cachait derrière son stand. Et elle dit, mais lui, on lui a déjà parlé. Je vais y aller. Il était là, il était caché derrière. Il entendait l'Évangile. Extraordinaire. C'est un privilège, véritablement. C'est notre appel. Et je crois que dans ces temps de jeûne et de prière, je crois que Jésus vient... et visite son église et observe attentivement. Quand il renverse les tables et qu'il interrompt le bon déroulement de ses sacrifices, les religieux s'opposent à lui et ils veulent le faire mourir. Mais que fait Jésus à ce moment-là? Il est en train d'annoncer que dans une semaine, il va mourir sur la croix, il va ressusciter. Et voilà qu'il inaugure la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, ce n'est pas simplement un concept, c'est cette réalité qu'en Christ, il est ressuscité, qu'au travers de son sang précieux, nous avons accès auprès du Père, que le voile a été déchiré dans ce fameux temple entre le lieu saint et le lieu très saint, que le mur a été renversé. Et c'est Paul qui nous le dira dans Éphésiens 2. Il est dit « à vous qui étiez loin ». Maintenant, vous êtes proche de la présence de Dieu, proche du plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a renversé, c'est Dieu en Christ qui a renversé le mur qui nous séparait de lui, qui nous séparait les uns des autres. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, toutes les générations, toutes les nationalités, tous ceux qui ont un background différent en termes de social ou autre, le mur a été renversé. Et voilà la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous pouvons être ensemble, nous tenir ensemble pour être au bénéfice de ce salut si merveilleux. Amen. Quelqu'un ici n'a pas l'assurance d'avoir la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jour du salut. Aujourd'hui, tu peux dire à Dieu, tu peux dire, mais je ne te connais pas, je n'ai pas cette assurance. Mais je veux croire que ce que tu as accompli à la croix, tu l'as accompli pour moi. Tu as pris ma culpabilité. Et je crois que le chemin est ouvert. Je veux te demander pardon pour mon péché, pardon pour ma vie passée. Et je t'accepte comme mon sauveur. C'est possible. Est-ce qu'il y a besoin de renverser des raisonnements? Est-ce que Jésus, lorsqu'il vient, il observe en nous? Et je voudrais, pour finir ce moment, on va avoir un temps où on va prier particulièrement. J'ai préparé une feuille avec des possibilités d'obstacles. Mais de la même manière que Jésus a pris du temps pour observer ce qui n'allait pas, je crois que nous sommes, en tant que chrétiens, des personnes pour qui Jésus est un modèle. Et je nous invite dans les jours qui arrivent à prendre le temps, faire de la place comme on l'a entendu. faire de la place à Dieu, faire de la place à la parole de Dieu, faire de la place au Saint-Esprit, et ne pas se précipiter dans un autre culte, dans une autre réunion, dans une autre activité, et de prendre le temps de dire, mais je m'arrête. Jésus, toi, tu observes et tu sais ce qui ne va pas. Et des fois, on n'est pas toujours conscient de ce qui a besoin d'être changé. Nathan, le prophète, va voir David et va lui rappeler son péché. David exerce une autorité en tant que roi. Il est meurtrier, il est adultère. Apparemment, il continue son chemin. Le psaume nous dira que intérieurement, il n'est pas si joyeux que ça, évidemment, parce que le péché ne peut pas rendre joyeux. Mais voilà que Nathan va parler au nom de Christ, au nom de l'Éternel, esprit de révélation. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a des choses qui sont évidentes, puis il y en a d'autres qu'on a oubliées. Et il y en a d'autres dont on n'est pas conscient. Et le Saint-Esprit peut mettre en lumière, peut amener à notre connaissance les choses qui sont des obstacles majeurs. Et c'est après que ça devient intéressant. Soit je me fâche comme les religieux, et je chasse Jésus, je dis non, non, mais ça ne va pas la tête. Soit je l'accueille, je le reçois, et je prends le temps. Je prends le temps que ça descende bien dans mes entrailles. Et surtout que je puisse prier jusqu'à ce que j'ai la victoire. Jusqu'à ce que j'ai la victoire. Jusqu'à ce que j'ai la victoire. Nous croyons que la parole de Dieu, non seulement écrite, est la vérité, qu'elle est autorité, mais nous croyons aussi à la parole prophétique que Dieu nous a dit. Mais voilà, vous êtes appelés à être une lumière pour les nations. Je le crois. Je le crois. Il y a des nations à Lausanne. Puis après, il y a des nations qui sont plus loin. On peut aller. Mais c'est notre appel. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Père. Il y avait juste une chose ou deux, trois qui sont venues très fort comme obstacle, qui pourrait être un obstacle, mais il y en a beaucoup. Mais il y en a un qui m'est vraiment revenu et sur mon cœur quand ce matin je venais ici. C'est la question, il y en a quelques-uns. La peur de ne pas être à la hauteur, la crainte de s'engager. Et puis aussi la question de temps. Vous savez, j'ai pas le temps. Toutes ces réunions de prière, je vous rassure, c'est pas pour qu'on y soit tout le temps, tout le monde. Hein. C'est justement pour permettre qu'il y ait un maximum de fenêtres où on peut être. Si vous voulez venir tout le temps, vous êtes les bienvenus. Mais l'idée, en ce qui concerne le temps, vous savez, des fois on dit, mais j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de m'engager, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais c'est vrai qu'au niveau des cultes, des fois, on dit, moi j'aurais envie qu'on loue pendant 4 heures, mais c'est pas grave, on peut avoir des soirées louanges. Hein. Puis on peut aussi avoir des soirées, des temps louanges à la maison. Mais le temps, vous savez, ça nous piège. Et quand on dit, mais j'ai pas trop le temps, hein, j'ai pas forcément le temps. Je me suis dit, imaginons, et je finis avec ça, imaginons que quelqu'un vienne et vous dise, mais hey, t'es le gagnant, t'as gagné 300 000 francs, t'as gagné 300 000 francs, il faut juste que dans 4 heures, tu ailles retirer ton gain à Zurich, dans 4 heures. T'as 300 000 francs à Zurich. Mais même si on a préparé un repas superbe, même si on a prévu d'aller je ne sais pas où, je ne sais pas qui d'entre nous n'irait pas à Zurich, je ne sais pas si en 4 heures c'est faisable, c'est possible. Il faut y aller vite, hein, faut partir. Mais attendez la fin quand même. Là, on va avoir le temps. Là, on va avoir le temps. Pourquoi ? Parce que là où est ton cœur, là est ton trésor. Là où est mon cœur, là est mon trésor. Et quand on redécouvre cet amour pour Dieu, lorsqu'on est renouvelé dans cette passion pour Dieu, vous savez quoi ? On trouve le temps. Hein ? On trouve le temps. Amen ? Voilà, je vous invite, on va fermer nos yeux. Et on va aussi se mettre dans ce mode écoute et observation.